Josué chapitre 6 verset 1er, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël, personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho, son roi et ses vaillants soldats. Notre méditation aujourd'hui se portera sur les versets 3 à 10. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville, tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera, le peuple montera, chacun devant soi. Josué, fils de Noun, appela les sacrificateurs et leur dit, « Portez l'arche de l'Alliance. » Et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Et il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville, et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'Alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchait devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes, et l'arrière-garde suivait l'arche pendant la marche. On sonnait des trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple, « Vous ne crierez pas, vous ne ferez pas entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche, jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris. Alors, vous pousserez des cris. Amen. » Notre thématique, c'est à la conquête de nos Jéricho. Nous sommes, comme le peuple, nous sommes les uns et les autres confrontés à des situations où nous ressentons ce que Josué et le peuple ont pu ressentir face à Jéricho, c'est-à-dire que c'est fermé, c'est barricadé. Personne n'entre, personne ne sort. Vous avez certainement dans des situations personnelles, familial, professionnel ou autre, vous avez certainement essayé tout ce qu'il y avait à essayer, mais la vérité c'est que la situation où les gens qui étaient en face de vous étaient des murs, vous vous êtes, excusez-moi l'expression, vous vous êtes tapé un mur. Et ça n'a même pas bougé d'un millimètre. Et ça fait des années que ça dure. Il faut simplement revenir aux fondamentaux, aux anciens sentiers, redécouvrir dans ce texte de Josué 5, Josué 6, des grands principes spirituels qui nous permettent de triompher de nos Jéricho, que ce soit sur le plan personnel, que ce soit sur le plan ecclésial ou autre, dans une famille, dans un couple, peu importe. Ce n'est pas une histoire de circonstances, c'est une histoire de principes spirituels. Ce sont des anciens sentiers. Et nous avons découvert ensemble, au fur et à mesure des méditations, que évidemment le succès, la réussite de la prise de Jéricho ne se trouve qu'en partie dans le chapitre 6, on va en parler, mais que ce n'est certainement pas ce plan militairement et humainement parlant qui était totalement lamentable qui a fait que les murailles sont tombées et qu'ils ont remporté quelque chose. Dieu a fait exprès de donner à son peuple, de donner à Josué un plan qui, excusez-moi, soit réellement stupide, humainement parlant. Tout aussi stupide que Gédéon, lorsque plus tard, il se retrouvera avec ses cruches et ses flambeaux et que avant de l'envoyer à la conquête, le Seigneur aura bien pris soin de décimer, entre guillemets, toute son armée pour qu'il se retrouve avec une poignée d'hommes, des cruches, des flambeaux et puis avec ça, ils sont partis à la conquête des Madianites. Alors, il est très clair que c'est Dieu qui est un puissant conquérant, c'est Dieu qui est un vaillant héros, c'est lui qui remporte les victoires et c'est lui qui, dans sa grâce, nous les communiquer. Et nous avions terminé les 3 messages de Josué 5 la dernière fois. Nous avons conclu sur cette pensée qu'en réalité, Dieu ne cherche pas des conquérants. C'est lui qui remporte. C'est lui qui livre bataille dans le ciel. C'est lui qui remporte les conquêtes. Et c'est lui qui, dans sa grâce, nous les communique. Dieu ne cherche pas des conquérants. Le monde évangélique se trompe sur le mot conquête. Dieu ne cherche pas des conquérants. Dieu cherche des adorateurs. c'est tout le message de Josué 5. On a vu ces trois grands axes qui étaient en réalité trois grandes étapes dans le brisement du moi, de l'ego, de la suffisance, du moi je sais, moi je pense, la stratégie, les méthodes, les calculs, et je fais ci et je pense ça, et je cherche à être inventif, à être innovant, etc., etc. La première chose que Dieu a demandé à son peuple, c'est de circoncire son cœur. Parce que le cœur circoncis, je ne peux pas revenir dans toutes les subtilités du message, vous retrouverez tout sur Internet, mais il faut bien comprendre que l'un des aspects fondamentaux de la circoncision du cœur, c'était la signification de l'engagement. Il fallait que le peuple ait, dans cette affaire vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de cette affaire, il fallait que le peuple ait un engagement de cœur. Frères et sœurs, entre les promesses de Dieu et leur accomplissement, il y a un trait d'union que seuls nous, nous pouvons remplir. Les promesses ne nous appartiennent pas, c'est Dieu qui les fait. L'accomplissement, ce n'est pas nous, on n'accomplit rien du tout. C'est Dieu qui, dans sa grâce, accomplit ses promesses. Entre la promesse et l'accomplissement, il y a un mot qui nous concerne tous, engagement. Et le peuple devait, au travers de cette circoncision, il devait retrouver la dimension d'un cœur plein, entier, totalement engagé, un cœur sans partage, évidemment aussi un cœur purifié, séparé du péché, un cœur soumis, un cœur obéissant. Mais il fallait que le peuple engage son cœur. Et le problème numéro un de l'Église en France aujourd'hui, c'est le manque d'engagement. Ensuite, le peuple a célébré la Pâque. Ce qui pour nous, nous ramène directement à la croix. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les plaines de Jéricho, face à ses ennemis, Josué et le peuple, c'est comme s'ils avaient pris la peine de replanter la croix dans leur cœur. La croix, frères et sœurs, ce n'est pas seulement le lieu où Jésus m'a sauvé, même s'il l'a fait. Amen. La croix, c'est bien plus qu'un point de passage. La croix, c'est bien plus qu'une simple doctrine. La croix, c'est un mode de vie. La croix, c'est une puissance. Jéricho n'est pas un problème humain, physique, matériel, stratégique, militaire. Le problème, c'est que c'est une puissance spirituelle. Et tout dans notre monde, nos lieux de travail, nos quartiers, nos villes, notre pays, nos enfants, nos parents, mettez ce que vous voulez, nous avons affaire à des murs parce que derrière, ce sont des puissances spirituelles. Et comment est-ce qu'on remporte du spirituel ? Avec de l'humain ? Certainement pas. On remporte du spirituel avec du spirituel. Et la Bible me montre que la croix est la plus puissante de toutes les puissances. Et le peuple a accepté ce jour-là, je le dis ainsi, c'est comme si la croix était sortie de sa tête, mais qu'il avait replanté la croix dans sa vie. La croix est devenue un mode de vie, elle a été plantée dans leur cœur. Et devant notre ennemi, quelle que soit sa forme, frères et sœurs, quelle que soit l'impossibilité devant nous, la seule chose à faire, c'est d'engager son cœur et de se replacer dans la vie de la croix. Parce que je ne connais rien de plus puissant que la puissance de la croix. La croix, c'est la puissance qui vient à bout de toutes les autres puissances. Amen. Et sans ça, dans 40 ans, on en parle encore. Et quand le peuple de Dieu va retrouver la dimension de la croix dans sa vie quotidienne, là, les murailles vont commencer à s'effondrer. Et puis ensuite, on voit encore en Josué 5 qu'il y a cet entretien, ce face-à-face entre Josué et l'ange de l'Éternel, c'est-à-dire Jésus lui-même. Et on voit que la première chose que Dieu fait avant de révéler le plan, la stratégie à Josué pour prendre Jéricho, c'est que Dieu va d'abord lui accorder une révélation de sa personne. Non pas que Josué ne connaissait pas Dieu, Josué n'était pas un nouveau venu dans la présence de Dieu. Dans le livre de l'Exode, on voit Josué remporter déjà des grandes victoires contre les Amalécites. Josué, c'est un homme de guerre. Exode 33 nous dit que Josué est déjà coutumier de la présence de Dieu. Moïse ressortait de la tente de la rencontre. Josué restait dans l'espace de la tente. Il ne quittait pas l'espace de la tente. On voit que Josué est un homme de guerre. Ce n'est pas un petit nouveau. La présence de Dieu, il connaît. Ce n'est pas un petit nouveau. Et dans ce domaine-là, on pourrait se dire, tout va bien, il faut y aller. Mais il y avait un aspect de la présence de Dieu que Josué devait connaître de façon particulière, il devait avoir sa révélation. Et là, Jésus lui dit, c'est en tant que chef que je viens. Il y a différents aspects de la personne de Dieu pour nous. Est-il notre Père ? Amen. Jésus est notre frère ? Amen. Est-il sauveur ? Amen. A-t-il dit à ses disciples, vous êtes mes amis ? Amen. Mais il a dit aussi, c'est en tant que chef que je viens. Il s'appelle Adonai, le maître, le seigneur, le chef, le kurios dans le Nouveau Testament, le roi couronné, le maître incontesté, celui à qui tout et tous sont soumis. Et à ce moment-là, Josué a changé de position. Il est passé de Dieu avec moi à Dieu au-dessus de moi. Et on voit un Josué qui a été totalement brisé, terrassé, il a mordu la poussière devant son Seigneur, et on pourrait se dire, mais Seigneur, qu'est-ce que ça vient faire là? Il y a quand même des enjeux devant nous, il y a des choses. Qu'est-ce qu'il fait là? Il est en train de perdre son temps. Quand vous êtes au pied de Dieu, vous n'avez pas l'impression de perdre votre temps? Qui ne dit mot consent? Mais il faut comprendre que la place de Jésus dans nos vies détermine notre qualité de vie, nos progressions, nos victoires. Et si Dieu veut absolument nous vaincre à ses pieds, c'est un principe divin incontournable. Je pourrais prendre Jean 12, on pourrait parler du grain de blé qui doit tomber en terre et mourir. On peut prendre plein d'images dans la parole de Dieu. Mais Dieu veut absolument que nous mordions la poussière devant lui. Non pas qu'il veuille nous détruire, mais parce qu'il faut comprendre qu'en tant qu'être humain, nous sommes des créatures. Et la créature, elle est nécessairement faite pour adorer. D'une façon ou d'une autre, que vous soyez chrétien ou pas chrétien, vous plierez le genou. C'est obligé. Il y a des gens, ils sont droits dans leurs bottes, plutôt dans leur cœur, ils sont fiers, chrétiens ou pas chrétiens. Moi, c'est comme ci, moi, c'est comme ça. Et on a l'impression qu'on gère, on maîtrise, on contrôle. Ouais, mais des années après, on voit le résultat. Et si Dieu veut absolument que tous et toutes plient le genou devant lui, c'est parce qu'il vaut mieux fléchir le genou devant lui que devant l'ennemi. Parce que l'être humain pliera le genou nécessairement devant quelqu'un ou quelque chose. C'est un principe. L'homme est une créature. Et l'homme pliera toujours le genou devant quelque chose ou devant quelqu'un. Et Dieu dit, vaut mieux que tu plies le genou devant moi. Parce que celui qui plie le genou devant Dieu ne pliera plus le genou sur son lieu de travail, dans la peur, dans les compromis, devant la dépression, dans les situations, dans ceci, dans cela, dans les tentations. Celui qui a mordu la poussière devant Dieu ne mordra plus jamais la poussière devant tout le reste. Et pourquoi Dieu veut absolument nous amener brisés à ses pieds? C'est pour qu'ensuite on ait une vie de victoire et que plus rien ne puisse nous terrasser. Le seul endroit où on a la vraie victoire, c'est quand on est au pied de Jésus. Et ça ne marche que comme ça. Il y a un quatrième élément qui est fondamental, c'est l'usage de la langue, l'usage de la parole, la louange. Alors, c'est vrai que le mot louange ne figure pas dans ce récit. Pourtant, il est omniprésent. Alors, il n'est pas fait ici mention du mot, mais pourtant la réalité qu'il représente est partout. Et tout ce récit de la conquête, ces quelques versets que nous avons lus, sont imprégnés de louanges. Et tout ce plan que Dieu a donné à Josué, la façon dont ça se déroule, moi je sens à l'intérieur une atmosphère de louanges. Pourquoi je dis ça? Je dis ça à cause de l'usage des trompettes retentissantes. Le mot louange n'est pas mentionné, mais la réalité qu'il décrit est dans tout le récit. C'est l'usage des trompettes retentissantes qui est riche de signification. Alors, je ne vais pas vous faire une étude sur les trompettes dans la Bible, on ne va pas décortiquer la symbolique du chiffre 7, etc. etc. Je laisse ça à d'autres. On va garder un message pragmatique et concret. Différentes significations, mais je vois aussi dans l'Écriture beaucoup de textes qui associent les trompettes à la louange. Nombre 10, par exemple, « Dans vos jours de joie, dans vos fêtes, vous sonnerez des trompettes » en offrant des sacrifices d'action de grâce. L'usage de la trompette est lié au sacrifice de louange et d'action de grâce. Dans le psaume 27, par exemple, David dit « J'offrirai des sacrifices au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. » Le psaume 47 nous dit que Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Dans le psaume 150, il nous est dit « louez l'Éternel au son de la trompette. » L'usage de ces trompettes nous parle de louange. Parler de louange, avant de parler de la louange, ça nous amène à parler de l'usage de la langue. J'ai toujours été interpellé par le verset 10. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez pas, vous ne ferez pas entendre votre voix. Il ne sortira pas un mot de votre bouche. Je ne connais pas un pasteur en France qui a regardé son église en face dans une situation donnée, qui a dit « Maintenant, je ne veux plus entendre personne. » Je ne suis pas sûr qu'il aurait une prochaine fiche de paye. Hein. Et pourtant, Josué dit dans ce contexte précis, « Il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai « Poussez des cris, alors vous pousserez des cris. » On voit que Josué avait bien compris quel était le pouvoir de la langue. Bien sûr, l'un des chapitres clés dans la Bible pour parler du pouvoir de la langue, c'est l'épître de Jacques, et il fait toutes sortes d'analogies, il utilise toutes sortes de métaphores pour nous faire comprendre que la langue est un petit membre qui a en réalité un grand potentiel. Le petit gouvernail, le petit feu, le petit membre qui n'a l'air de rien, on n'y prend pas garde, ça paraît tellement insignifiant, etc., etc. Pourtant, Josué avait compris à ce moment-là que l'usage que le peuple ferait de sa langue serait déterminant dans la réussite du projet ou pas. Le proverbe 18 dit que c'est à la langue que revient le pouvoir de la vie ou de la mort. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Par nos paroles, nous pouvons communiquer la vie ou communiquer la mort. Notre langue, c'est un potentiel de foi ou un potentiel d'incrédulité. Par nos paroles, nous pouvons encourager quelqu'un, une parole pour le construire, le guérir, apaiser son cœur, passer un baume, lui donner de l'espérance, lui ouvrir une porte, un boulevard, un potentiel énorme, une parole de foi. Mais avec une seule parole, vous pouvez casser quelqu'un définitivement. 30 ans après, il s'en souvient encore. Et la Bible dit, c'est sans exagération, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est intéressant de regarder dans l'écriture que, en hébreu, le verbe créer et le verbe parler, en réalité, sont la même racine. C'est la même racine qui a donné ces deux verbes. En français, nous, on ne peut pas faire le lien. Évidemment, parler, créer, deux verbes totalement différents. Mais dans la pensée biblique, parler et créer, ces deux verbes ont la même racine. Parce que dans la pensée biblique, la parole engendre toujours quelque chose. De bon ou de pas bon. Mais la parole engendre toujours quelque chose. La parole, c'est une puissance spirituelle qui ouvre des portes à Dieu et ferme une porte à l'ennemi. Ou inversement, par certaines paroles, je peux fermer la porte à Dieu et ouvrir un boulevard à l'ennemi, malheureusement, pour ses œuvres. Et je crois que la première chose qui est importante, c'est pour ça que j'en parle, c'est de réaliser quel est le potentiel de la langue. De toute façon, vous connaissez tous le livre des Nombres. Et dans ce fameux chapitre, nombre 13, de l'exploration du pays de Canaan, on sait très bien qu'il a fallu seulement 10 espions sur les 12. 10 pour démoraliser plusieurs millions de personnes. Quand 10 personnes arrivent à démoraliser plusieurs millions de personnes, on ne va pas me dire qu'il n'y a pas de puissance dans nos paroles. Et Josué l'avait compris. Parce que là, il s'est dit, j'invente pas tant que ça, Josué avait compris ce principe et Josué a dû se dire, oh là 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 là, quand ils vont tourner autour de la muraille, de quoi est-ce qu'ils vont parler ? Oui, alors tu te rends compte quand même, mais finalement, comment ça se fait qu'on tourne en rond ? Enfin, je veux dire, le pasteur avant lui, le pasteur Moïse, il ne nous faisait pas des trucs comme ça. On n'avait jamais fait ça avec ce pasteur-là. Mais non, c'est lui, mais il a des drôles d'idées quand même. Enfin bon, on va se soumettre. Hein. On est des chrétiens modèles, alors on se soumet. Il nous a dit de... Eh ben, on va se soumettre, on va tourner. Mais enfin, excusez-moi, moi je dis rien, mais enfin, j'en pense pas moins, parce que des idées comme ça, je ne sais pas où ils ont été le chercher, ce pasteur. Mais enfin bon, on y va, mais enfin bon. Et vous imaginez qu'il y en ait un, deux, trois, quatre, et puis qui entendent ça et qui commencent à parler de ça. Ben oui, au fait, mais pourquoi on tourne autour des murailles? Et là, en l'espace de quelques secondes, tout le climat de foi, de louange, d'espérance, de foi dans les promesses de Dieu, dans ce qu'il nous livre, dans ce qu'il leur livrait, dans ce qu'il veut nous livrer, en quelques instants, tout serait tombé par terre. Autant la parole de Dieu, et c'est ce qu'il faut comprendre, la parole de Dieu est créatrice, elle est créatrice de vie, elle est créatrice de bonheur, elle édifie, elle encourage, elle apporte la lumière, l'espérance dans le cœur, autant la parole humaine, à contrario, peut être dévastatrice, porteuse de mort, elle détruit, elle décourage, elle amène des ténèbres, du désespoir, elle maintient les gens en échec. La langue, ça peut être soit une source de vie, soit un feu destructeur, soit une arme de Dieu, soit une arme de l'ennemi. Vaut mieux que ma langue soit sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. D'accord ? Évidemment. J'insiste, frères et sœurs, parce que on peut être chrétien, appartenir à Dieu, et que malheureusement notre langue ne soit pas totalement soumise à l'Esprit de Dieu, et que notre langue ne soit pas complètement à Dieu, complètement sous le contrôle de Dieu. Ce qui va avoir pour conséquence, et beaucoup de chrétiens malheureusement, c'est vrai frères et sœurs, je sais qu'il y a des défis, il y a des murailles, il y a des problèmes, des difficultés, des pressions, des oppressions, de l'adversité, des trahisons. Je sais que la vie chrétienne c'est pas un long fleuve tranquille, je sais qu'on s'en prend dans les dents. C'est justement parce qu'on s'en prend que c'est pas la peine d'en rajouter. D'accord ? C'est ça la logique. Et beaucoup de chrétiens ont le cœur lourd, ne s'en sortent pas, tournent en rond, sont dans toutes sortes de défaites, toutes sortes d'échecs. C'est pas que les circonstances en face d'eux sont trop difficiles. Dieu ne s'est pas trompé quand il a permis telle ou telle circonstance. C'est pas que les circonstances soient trop difficiles. Non, c'est que l'Esprit de Dieu en eux est attristé à cause du mauvais usage qu'ils font de leurs paroles, des paroles négatives, des paroles anti-bibliques et anti-bibliques. On ne parle pas contre la Bible. Anti, ça signifie à la place de. Anti, à la place de. L'antichrist, c'est pas celui qui vient contre Dieu, même si c'est... Ok, c'est celui qui vient à la place de. Anti, à la place de. Mes paroles anti-bibliques, c'est-à-dire qu'au lieu de confesser la parole de Dieu, eh ben, je suis toujours en train de confesser autre chose. Et on ne se rend pas compte de l'effet autodestructeur, parce que celui qui n'a pas le contrôle de sa langue va déjà attrister le Saint-Esprit, se faire du mal à lui-même, puis ensuite il va faire du mal aux autres, et quand on parle d'une façon ou d'une autre des paroles anti-bibliques, de la critique ou ce que vous voulez, de toute façon, frères et sœurs, on affecte, on affaiblit l'œuvre de Dieu. C'est obligé. Il n'y a pas, la Bible est claire, il n'y a pas de petites paroles. Il n'y a pas de parole en l'air, il n'y a pas de parole anodine. Ce qui sort de ma bouche aura toujours des répercussions, bonnes ou mauvaises, dans ma vie, dans celle de ceux qui m'entourent et ensuite dans l'œuvre de Dieu en général. Et toutes sortes de paroles anti-bibliques, ces paroles qui ne sont pas anodines, sur lesquelles nous ne veillons pas, des paroles auxquelles nous ne prenons pas garde, elles sont anti-bibliques. On les prononce au lieu de dire ce que la parole de Dieu dit. Par exemple, combien de fois dans nos situations diverses et variées, frères et sœurs, on a dit sans s'en rendre compte, « Ah, je peux pas, j'y arriverai pas. » N'importe quelle situation. « Ah, je peux pas, c'est plus fort que moi. » Pourquoi n'avons-nous pas dit « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Et il y a des gens, ils ont le réflexe, « Ah, je peux pas, j'y arriverai pas. » La parole de Dieu me dit depuis longtemps, « Je peux tout par celui qui me fortifie. » Et nous, on continue. Ah, je peux pas, j'y arriverai pas. Ah, je peux pas, j'y arriverai pas. Ah, Seigneur, fais grâce. Ah, Seigneur, règle-moi ça. Ah, Seigneur, sors-moi de ce problème. Ah, Seigneur, change son cœur, elle est insupportable. Ah, c'est... Oui, il est insupportable, comme vous voulez. Et Paul disait, je peux tout par celui qui me fortifie. Combien de fois on a dit, ah, oh, mais moi, je suis trop petit, frère. Mais moi je suis rien. Moi, je sais pas parler, moi, je... Pourquoi il faut avoir un doctorat en philosophie pour parler de Jésus aujourd'hui? Ah, je peux pas, moi je suis rien. La Bible me dit, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Crois ce que tu veux croire, choisis ce que tu veux confesser. Ah, moi, j'ai rien, vous savez. Ah, nous, on n'est rien. On est une petite église. Nous, on a toujours été une petite église. En même temps, c'est bien, c'est familial. Hein. On se connaît tous, hein. C'est bien. C'est une petite église. On est bien entre nous. Mais nous, on est petits, on n'a rien. Ben moi, la Bible me dit, j'ai tout pleinement en lui. Je ne veux pas vivre comme un pauvre, alors que la Bible me dit, tu as tout. Jésus me dit, le ciel, désormais vous verrez le ciel ouvert, tout ce qui est à moi est à vous. J'ai tout pleinement en lui. Combien de fois on a dit, ah, c'est impossible, ah, c'est trop, ah, c'est pas possible, c'est impossible. Mais la Bible ne dit-elle pas que tout est possible à celui qui croit ? Ah, on n'est pas assez nombreux, frère. Comment voulez-vous une ville comme Manosque ? On n'est pas assez nombreux. Ben, Jonathan a dit un jour, mais de toute façon, Dieu sauve autant au moyen d'un petit nombre que d'un grand. On peut être chrétien, on peut appartenir à Dieu, et nous lui appartenons, amen. Mais malheureusement, ne pas avoir le langage de Dieu. On peut être dans la maison de Dieu, nous sommes gens de la maison de Dieu, mais malheureusement ne pas avoir l'état d'esprit de la maison, et par conséquent ne pas avoir le langage de la maison. Ce qui m'a toujours surpris aussi dans le livre de Josué, c'est que dès le début, Dieu dit à Josué que ce livre de la loi, que ma parole, ne s'éloigne pas de ta bouche. Pendant longtemps, quand je disais ça, je me disais, mais pourquoi t'as dit ça, Seigneur ? Que ma parole ne s'éloigne pas de ta bouche. La parole de Dieu, elle doit être dans mon cœur. La parole, elle doit être au fond de mon cœur. C'est là que ça doit se passer. Pourquoi ta bouche ? C'est comme si Dieu avait dit à Josué, Josué, il y a différents principes dans la parole de Dieu. D'accord, mais il faut tous les considérer un par un. Sur ce principe-là, c'est comme si Dieu avait dit à Josué, si tu veux que ça marche, il va falloir que tu parles comme je parle. Que ma parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Si tu veux que ça marche, il ne faut pas que tu te permettes de parler un autre langage que celui de Dieu. Parce que son langage, sa parole est puissante et elle ouvre des portes. Mes paroles ne peuvent rien, mais la parole de Dieu est puissante, elle est vivante et elle est efficace. D'ailleurs, c'est bien par la parole, dit Pierre, c'est bien par cette semence incorruptible, la parole, que vous avez été régénérée. Que vous êtes né de nouveau, c'est par sa parole. La parole est vivante, elle est puissante, elle est efficace, celle de Dieu. Alors, je vois un peuple qui, sous le commandement de Josué, a banni, a exclu toute parole négative, toute parole critique, toute parole acerbe, toute parole destructrice, pour faire place au langage du royaume. Et c'est quoi le langage du royaume ? C'est la louange. Le langage du royaume, c'est la louange. Mais il faut déjà bannir les paroles anti-bibliques. Il faut déjà fermer certaines sources, parce qu'on ne peut pas faire les deux. Jacques est très clair, il dit, on ne peut pas faire sortir par la même source de l'eau douce et de l'eau amère. Ça ne marche pas. L'eau amère va polluer l'eau douce. Il faut absolument fermer le robinet, faire tarir cette source d'eau amère, il faut couper une source pour que l'autre source puisse couler comme il faut, abondamment, avec efficacité, et qu'elle puisse vraiment honorer Dieu, et qu'à ce moment-là, la louange, mes mots ne soient pas des mots, mais que ce soit l'expression réellement de mon cœur qui croit. La louange, on va en parler un petit peu, c'est fondamental, c'est un thème essentiel, un thème récurrent dans l'Écriture. La louange, frères et sœurs, je sais que là aussi, c'est comme le mot conquête, ça peut être très très mal compris dans les milieux évangéliques. La louange, ce ne sont pas des slogans. La louange, ce ne sont pas des formules. La louange, ce n'est pas une succession de mots qui seraient habilement tournés ou formulés. La louange, ce ne sont pas des phrases toutes faites. Ce n'est pas parce que je dis à Dieu « je te loue, je t'adore » que je le loue et que je l'adore. C'est pas parce que j'ai dit « Dieu est bon, 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 ça va aller, Dieu est bon, ça va aller, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, ça va aller, Dieu est bon, on va s'en sortir, Dieu est bon. Non, Dieu est forcément bon, ça va aller. » Ça, c'est de l'auto-persuasion évangélique. Ça s'appelle de la confession positive. Ça ne sert à rien du tout. Ce n'est pas de la foi. Qu'est-ce que c'est la louange ? La définition de la louange se situe dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13 et au verset 15. Et ici, l'auteur que nous ne connaissons pas de l'Épître aux Hébreux, inspiré par le Saint-Esprit, dit « Par Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » Le sacrifice de louange, c'est le fruit de lèvres qui confesse son nom. La confession du nom de Dieu. Le nom de Dieu, on le sait dans sa parole, le nom est synonyme de identité. Le nom de Dieu, c'est qui il est. La louange, c'est supérieur à l'action de grâce. Vous avez par exemple expérimenté une guérison. Vous avez vu le Seigneur agir d'une façon ou d'une autre dans un domaine ou un autre de votre vie. Vous avez été béni, vous avez été exaucé, vous avez prié, vous avez cru, Dieu vous a répondu. Et là, à ce moment-là, vous allez dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait passer. Ça s'appelle de l'action de grâce. Vous remerciez Dieu, c'est important, il faut être reconnaissant pour ce que Dieu a fait. Seigneur, merci de m'avoir donné un travail. Merci de m'avoir guéri, merci d'avoir répondu à telle ou telle chose. Je dis merci à Dieu sur la base de ce qu'il a fait, de ce que j'ai vu. Il faut le faire, c'est de l'action de grâce. Mais l'action de grâce se base sur des éléments passés, visibles. La louange se situe à un autre domaine parce que la louange est totalement indépendante des circonstances. La louange est fondée sur la nature de Dieu. Dieu est grand, Dieu est bon. Dieu est miséricordieux, Dieu est lent à la colère, Dieu est compatissant, Dieu est saint, Dieu est tout-puissant, Dieu est guérison, Dieu est provision. Et on peut multiplier ainsi tous les attributs de la personne de Dieu. Dieu est, Dieu est, Dieu est. Et même si les circonstances visibles me disent le contraire, qu'elles me disent que Dieu n'est peut-être pas aussi bon que ce que le pasteur dit ou que la Bible dit, je sais dans mon cœur, parce que la louange est fondée sur la nature de Dieu, je vais pouvoir louer Dieu à cause de ce qu'il est. Et c'est exactement ce que le peuple a fait. Ils ont loué Dieu, ils sont allés soumis et obéissants dans cette dimension de louange fondée sur la nature de Dieu. Les murailles de Jéricho étaient encore intactes, mais ils ont sonné des trompettes retentissantes, c'est-à-dire qu'ils ont proclamé Dieu. C'était un instrument de louange et de proclamation. La louange a ça de supérieur, frères et sœurs, c'est qu'elle ne s'occupe absolument pas des circonstances visibles. La louange s'occupe de Dieu et de Dieu seulement. Et il faut absolument, c'est indispensable, c'est pour ça que ce ne sont pas des mots, c'est l'expression d'un cœur, un cœur qui croit. Je crois, Seigneur, que tu es bon. Et je n'ai pas besoin de me le répéter 30 fois par jour pour essayer de m'en convaincre. Je sais dans mon cœur que Dieu est mon Père et qu'il a forcément des solutions pour moi. Il ne m'abandonnera jamais, il ne me laissera jamais tomber. Je le sais, c'est inscrit au fond de mon cœur. Et comme j'ai cette foi dans sa nature, la louange est l'expression, ce n'est pas des mots, la louange est l'expression de mon cœur qui croit, qui a confiance. La louange et la foi sont indissociables. La louange exprime la foi dans la nature de Dieu. Mon frère, ma sœur, je t'en supplie dans ta maison, chasse l'esprit d'abattement, chasse l'esprit d'apitoiement au nom de Jésus. Chasse la plainte, chasse la critique, chasse l'inquiétude, ça va te tuer. Et redresse un autel de louange, commence à considérer la nature profonde, intrinsèque, l'essence même de ton Dieu dans ce qu'il est, dans cette parole révélée, immuable, éternelle, infaillible. Et à cause de cette nature de Dieu, je peux louer Dieu en tout temps. En toutes circonstances. Le psalmiste dit « Je louerai l'Éternel en tout temps ». Louer Dieu quand ça va bien, ce n'est pas de la louange, c'est de l'action de grâce, parce que je lui dis merci, parce que tout va bien. C'est quand ça va mal que la foi prend toute sa valeur. La foi n'est pas faite pour le possible, frères et sœurs. La foi est faite pour l'impossible. La louange n'est pas faite pour le possible ou le visible. La louange, elle est faite pour l'invisible, pour l'impossible. Et face à Jéricho, ils ont utilisé cet instrument de proclamation, de célébration. Ils ont loué Dieu. Je vous ai dit que la louange, l'usage de la langue était puissant. Par ces louanges, Nous pouvons, si c'est réellement, j'insiste, pas des mots habilement formulés, si c'est vraiment l'expression d'un cœur qui croit, par cette dimension de vie, de louange, je peux ouvrir une porte à Dieu. L'Éternel, dit le psaume 47, montre au son des cris de triomphe. J'ouvre une porte à Dieu et je ferme une porte à l'ennemi. Le psaume 22 dit que l'Éternel siège, en hébreu, Yashab, l'Éternel siège littéralement, il s'installe au milieu des louanges de son peuple. Excusez-moi, frères et sœurs, je vais être un peu cru. On ne s'est jamais installé dans un endroit où ça sent mauvais. Les endroits où ça sent mauvais, tout le monde se sauve. Mais là où ça sent bon, il y a une atmosphère de louange, il y a un petit air frais. Merci les frères pour les ventilateurs. Il y a une bonne atmosphère. Je suis rentré dans l'église ce matin, ça sentait bon, c'était frais. Merci aux gens du ménage, ils ont tout nettoyé, c'était nickel comme d'hab. Et là, je suis rentré, je me suis assis, j'ai dit « Merci Seigneur pour cette église ». Je me suis installé. Là où c'est bien, où ça sent bon, on s'installe, on a envie de rester. Quand le Seigneur sent cette atmosphère de louange dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos couples, dans nos foyers, dans notre église, le Seigneur a envie de rester, il a envie de s'installer. L'Éternel s'installe, Yashab, au milieu des louanges de son peuple. Psaume 22. Pourquoi est-ce qu'il ne s'installe pas au milieu des plaintes, des jérémiades, des critiques, des murmures? Pourquoi il ne s'installe pas? Parce que le mot hébreu, qui a été traduit par murmure, signifie littéralement mauvaise haleine. Le mot hébreu qui a été traduit par murmure signifie littéralement mauvaise haleine. Excusez-moi, je vais être encore cru, comme ça vous allez vous détendre deux secondes. Vous avez déjà parlé à des gens, qui ont franchement mauvaise haleine. Ben oui, ça arrive, pardon. Et ben quand quelqu'un est... Ah frère, je suis content. Vous faites... Eh ben pardon, mais c'est ce qu'on le fait tous. Et on fait... Et puis là, respectueusement, on dit... Oui. Oui, je vous écoute. Oui. Pardon, frères et sœurs, on ne s'installe jamais où ça ne sent pas bon. Il faut comprendre que le mot murmure signifie mauvaise haleine. C'est une odeur qui insupporte le nez de Dieu, si vous me permettez cet anthropomorphisme. Il n'a pas de nez, évidemment. Qui insupporte le nez de Dieu. Et il n'a pas envie de s'installer là. Mais quand il y a cette atmosphère de louange, et puis au sein du peuple de Dieu, des encouragements, des exhortations, de l'amour et des paroles de douceur, de pardon, de générosité, des paroles de foi qui sont communiquées. Mais le Seigneur, il est bien. Il dit, je suis bien avec mes enfants là. Il s'installe. Et là, le Seigneur, c'est pas qu'il n'est pas là en temps normal. Il est là. Mais il y a des moments, excusez-moi, il est comme refoulé au coin de nos cœurs, de nos vies, au coin de nos assemblées, de nos bâtiments. Il est là, il est dans un coin. Et quand il commence à y avoir une vraie atmosphère de louange et qu'on commence à parler comme il parle, le Seigneur peut enfin donner toute la mesure de ce qu'il est. Et il peut se manifester, il peut relâcher sa présence. Elle est plus contenue, il peut relâcher sa présence dans ma vie, dans mes situations, dans mon église, etc., etc. Et sa présence, elle est où sa présence? Eh bien sa présence, c'est l'arche. Le symbole de la présence de Dieu, c'est l'arche. Le symbole de la présence et de la gloire de Dieu, l'arche était parfaitement au centre du cortège, parfaitement à sa place. Et bizarrement, qu'est-ce qui se passe? Les sept sacrificateurs avec les sept trompettes retentissantes, ils ne sont pas derrière, ils sont devant l'arche. Parce que la présence de Dieu, je vous ai dit, la louange intronise Dieu. Elle le place en position de force, elle l'amène à relâcher sa présence. L'arche, le symbole de la gloire et de la présence de Dieu, était juste derrière les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes retentissantes. Si c'est vraiment exprimé dans la foi, la louange va libérer le canal de la toute-puissance de Dieu. Elle va permettre à Dieu de se manifester, de donner la pleine mesure de ce qu'il est. Verset 9, le peuple a sonné des trompettes pendant la marche. Pendant la marche, ils n'ont pas analysé, ils n'ont pas critiqué, ils n'ont pas rationalisé, ils n'ont pas murmuré. Pendant la marche, ils ont sonné des trompettes, ils ont loué Dieu. Ils ont fermé la porte à toutes sortes de paroles anti-bibliques pour se consacrer exclusivement à la louange de Dieu. Jusqu'au jour où Josué leur a dit « Maintenant, poussez des cris » et à ce moment-là, la muraille est tombée. Mais ils ont eu ce genre de vie, ils ont eu cette dimension de vie avant que la muraille s'écroule, pas après. David dit dans le psaume 18, « Je m'écris, loué soit l'Éternel !» Et, Ensuite, je suis délivré de tous mes ennemis. D'abord, je m'écris, loué soit l'Éternel. Bien sûr, vous avez compris, ce n'est pas un slogan, c'est la confession d'un cœur qui croit. La foi et la louange précèdent la victoire. Mon frère, ma sœur, ta marche serait certainement beaucoup moins pénible. La marche de ton couple, de ton foyer, ta marche personnelle, la marche d'une église serait certainement moins pénible, beaucoup plus efficace. Nos réunions de prière, même si ce sont des réunions de prière, des réunions d'intercession, seraient aussi moins pesantes si elles étaient plus aussi dans une atmosphère de foi, dans une dimension de louange. Ta marche serait beaucoup moins pénible, elle serait beaucoup plus efficace si elle se faisait au rythme de la foi et de la louange. Tu verrais certainement beaucoup plus de victoires et tu verrais certainement beaucoup plus de Dieu dans ta vie. Une dernière chose, je termine avec ça, je ne l'avais pas noté. Dieu veut absolument que nous arrivions à cette dimension de louange. Parce que la louange, elle a ça de bien aussi. C'est qu'elle nous oblige à nous décentrer de nous-mêmes. Puisque je suis focalisé sur la nature de Dieu, je suis tellement occupé, non pas à compter les bienfaits de Dieu, même si on peut le faire, c'est très bien, ça donne de belles actions de grâce. Déjà là, si on comptait tous les bienfaits de Dieu, c'est vrai que on n'aurait peut-être plus le temps pour le reste. Mais la louange à ça de supérieur, c'est que je vais me concentrer sur la nature de Dieu. Je vais focaliser la vie de mon âme sur la nature de Dieu. Je suis obligé de me décentrer de moi-même. J'arrête de me considérer moi pour le considérer lui. J'arrête de considérer les circonstances hostiles pour le considérer lui. J'arrête d'expliquer à Dieu combien mes problèmes sont grands. Non, je dis à mes problèmes combien Dieu est grand. Et il y a toute une façon de vivre qui est inversée. Et parce que j'étais obligé de me décentrer de moi-même, la louange devient le plus puissant de tous les antidépresseurs. Parce que le problème numéro un de la dépression, c'est ça. Et la louange m'oblige à me décentrer de moi-même. Et par conséquent, la louange, en plus d'être un puissant antidépresseur auquel je souhaite que tout le monde va goûter, la louange est réellement une puissance de vie. Merci Seigneur, c'est comme la croix, c'est comme l'adoration, c'est comme le cœur engagé. La louange, ce n'est pas le dimanche matin de 10h10 à 10h40. La louange, c'est une façon de vivre, c'est tous les jours avec Dieu. Amen.